Bonsoir. Voici une question. Pouvez-vous nous dire comment aider des personnes, souvent jeunes, malades du sida? Comment les aider à accepter et comment les accompagner à la mort?
Je vous souhaite la bienvenue, non seulement pour écouter ma parole, car s'il y a une chose que je ne veux pas, que je ne souhaite pas, c'est bien que vous écoutiez ma parole. Et pourtant, si vous êtes ici, c'est bien pour écouter quelque chose. Ce que je souhaite avant tout, c'est que vous réussissiez à comprendre quelque chose, et non pas simplement à mémoriser, à écouter sagement et fidèlement tout ce qui est dit. Même si les trois quarts du discours vous semblent obscurs, ou dans un premier temps inaccessibles, voire inacceptables, vous ne devez pas vous en arrêter à cette première évidence. L'important est que quelque chose se dégage en vous, et non pas simplement quelque chose qui vous rappellera la spiritualité, mais je dirais simplement quelque chose qui va être beaucoup plus profondément humain. Je vais répondre à la question car elle est importante. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que je veux dire quand je dis être humain. Beaucoup de gens s'imaginent que la spiritualité est quelque chose de tellement parfait qu'il faut absolument se défaire de toute humanité. Or, si vous aviez les yeux pour voir les choses et le cœur pour sentir la nature des choses, vous vous rendriez compte que, en fait, celui qui est le plus spirituel est en même temps l'être qui est le plus humain. Et c'est lorsqu'un homme arrive à être parfaitement humain ou extrêmement humain qu'il est capable de toutes les bontés, qu'il est capable donc de cesser la guerre et d'engendrer la paix, ou de casser les choses disharmonieuses, ou de faire périr ce qui n'a plus lieu d'exister. Tandis qu'un individu qui n'est que lui-même et qui est tout simplement ce flux et reflux de désirs, d'émotions, d'ambitions, de projections, cet être-là ne peut pas véritablement être appelé un être humain. Il y a donc toute une marge qu'il faut essayer de combler, toute une marge qui existe entre l'individualité ou la personnalité que l'on appelle homme et toute sa capacité d'humanité qui existe dans cet homme. Et lorsque vous regardez le monde alentour, vous vous apercevez bien qu'il n'y a pas d'humanité véritable dans le cœur des hommes et dans leurs actions. Et c'est pourquoi il vous semble étrange qu'existe encore la guerre, ou que dans les prisons il existe encore la torture, ou que sur un plan tout simple de relations sociales et de relations d'argent, il y ait tant d'agressivité, il y ait tant de compétition, tant d'escroquerie, tant d'exploitation. Je ne voudrais pas être dure avec la famille humaine. Et pourtant, il faut dire les choses comme elles le sont. Je vais donc dire que la famille humaine se croit humaine et elle n'est pas humaine. Dans la plupart des cas, l'individualité qui a été développée est si bassement encore ancrée dans l'astral qu'il suffirait d'un pas pour que l'individu se rapproche de l'animal. Et quand je dis animal, il ne faut pas imaginer ce terme sur un plan uniquement péjoratif. Je dis même qu'il y aurait plus de valeur, plus de tranquillité, plus de sérénité à être un animal qu'à être ce genre d'individu dont je parle et qui n'est pas encore pleinement humain. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il vaudrait donc être plus favorablement un animal qu'un individu pas encore suffisamment développé? Tout simplement parce que l'animal est régi par un certain nombre de lois. L'animal ne se crée pratiquement aucun karma. Il peut créer, à cause de son agressivité au niveau de la collectivité, il peut créer un certain karma vis-à-vis de l'homme, Je prends pour exemple les animaux sauvages qui pendant longtemps ont terrorisé les hommes et dévoré les hommes. Mais c'est un karma infime, très petit, car il n'y a pas de conscience véritable qui puisse permettre à l'animal de juger ce qu'il fait, donc d'être jugé pour ce qu'il a fait. Alors que l'homme, ou en tout cas celui qui commence à devenir un homme, lui détient cette étincelle que l'on appelle le témoin du mental. Une forme donc d'autoconscience qui lui permet une auto-analyse et une autogestion de ses propres forces. Par là même, par rapport à l'animal, l'homme devient pleinement responsable de ses actes. Et il a donc le potentiel, le pouvoir de choisir ses actes. C'est ce qui fait que, pour beaucoup d'individus, il vaudrait mieux qu'ils soient encore des chats ou des oiseaux, plutôt que d'essayer de courir dans la famille humaine. Ils se feraient beaucoup moins de mal à eux-mêmes et en feraient aussi beaucoup moins aux autres. Ce qu'il faut donc comprendre dans ce que je dis, c'est que si vous avez atteint le niveau pour développer ce sens de la responsabilité et du pouvoir, si les maîtres que l'on appelle les maîtres du karma et les seigneurs de l'évolution ont accepté de faire descendre sur l'humanité cette étincelle qu'est le mental, la libérant par là même des règnes inférieurs, pour pouvoir aller vers l'archétype divin, c'est qu'il est attendu de la famille humaine qu'elle devienne humaine et qu'elle ne reste pas bassement dans l'astral avec juste ce qu'il faut de mental pour faire encore plus de bêtises que ne le feraient par exemple les animaux. Il y a un danger à obtenir le mental. Cela paraît pourtant une belle chose, avoir des idées, pouvoir conceptualiser, pouvoir parler. Cela paraît quelque chose d'extraordinaire et cela semble être le point d'humanité de l'homme. Le point où donc il va se distinguer des animaux, des autres règnes. Et pourtant il y a un réel danger à recevoir cette étincelle. Pourquoi ? Parce que le mental n'est pas un fonctionnement qui puisse, de par lui-même, s'effectuer avec pureté. Le mental est donc un instrument. Le mental n'est pas une loi, ou en tout cas n'est pas vécu comme une loi divine. Il existe des concepts divins, mais il n'existe pas de mental divin. Et quand je dis mental divin, je veux dire d'intellect divin. L'intellect est donc propre à l'activité humaine. Et lorsqu'un homme reçoit cette capacité d'intellectualiser, de concevoir, de se rendre compte exactement de ses pulsions, de ses désirs, et qu'il peut ainsi créer des plans pour obtenir ce qu'il veut ou pour créer ce qu'il souhaite, il peut devenir par là même un magicien noir ou un magicien blanc. Et quand je dis magicien, je ne fais pas simplement référence à la magie. Je parle de magie dans un terme beaucoup plus général et qui touche la vie de tous les jours et qui est simplement la manipulation de la substance de la pensée, des désirs, des émotions, etc. Ce qui fait que ce que vous allez faire à votre voisin peut être interprété comme de la magie, même s'il n'y a aucune cabale là-dedans. La puissance de l'homme vient de son mental, de ce qu'il a été capable un jour de conceptualiser et de pouvoir concevoir l'objet qu'il désirait et la méthode qu'il pouvait créer pour obtenir l'objet désiré. S'il n'y avait pas eu cette étincelle donnée à l'humanité, il n'y aurait jamais eu aucune évolution ni même aucune idéation divine, c'est-à-dire que l'homme n'aurait jamais pu se douter qu'existaient des forces supérieures, qu'existaient de grandes galaxies, qu'existaient des notions très vaste et absolu comme le temps et l'espace. C'est donc par le mental que l'homme arrive à devenir supérieur à tous les autres règnes, à toutes les autres créatures. Alors je vous le demande, qu'allez-vous faire avec ce mental? Puisqu'il est le point de croisement des puissances, puisqu'il est le point d'éclat de l'intelligence, qu'allez-vous faire avec cela? Si vous mettez ce mental au service de vos passions, vous allez devenir très intelligent, très compétent dans votre capacité d'exécuter vos passions ou d'obtenir l'objet de vos passions. Et la vie de vos amis ou la vie de vos voisins ou votre propre vie vous permet largement d'illustrer ce que je viens de dire. Que ce soit pour des petits objets ou des grands objets. Par exemple, un être ambitieux trouvera toutes les méthodes pour arriver à ses fins, comme une dame simplement coquette arrivera à trouver les moyens de s'offrir la robe qui l'a séduite dans la vitrine. Que ce soit pour obtenir une petite ou une grande chose, sachez que vous ne pouvez pas être conscient de votre désir ni fabriquer l'acte qui convient pour obtenir l'objet désiré. S'il n'y avait pas le mental, vous ne pourriez pas faire cela. Donc, en vous repose l'arme absolue. Et l'arme absolue, non pas parce que cette arme contient quelque chose de magique. Il n'y a rien de véritablement magique dans le mental. Ce n'est pas un acte de cabale que de penser. Il faut voir la magie de façon un petit peu plus quotidienne et l'écarter de la cabale pour comprendre quelle est la puissance de l'homme. Car si les hommes associent toujours la magie à la cabale ou à des invocations ou à des incantations d'esprit, ils ne se doutent pas que la puissance à l'état pur demeure en eux. Et constamment, ils peuvent l'utiliser, l'articuler, même dans les moments où ils s'en doutent le moins. Alors chacun pense que la magie, c'est pour le mage d'à côté, le cabaliste du coin. Mais moi qui ne fais que penser, moi qui ne fais que prier, moi qui n'ai qu'un petit travail, moi je ne fais pas de magie. C'est comme cela que pensent les disciples et les profanes. Et pourtant, il se trouve qu'il existe de la magie dans tous les actes, et surtout dans le fonctionnement de la pensée, et dans le rayonnement qui est fait à partir de la chose pensée. Ce qui ne veut pas dire que dès demain, vous devez imaginer que par votre pensée, vous allez pouvoir obtenir toute chose. Il ne faut pas croire que c'est une magie aussi puissante que la cabale, par exemple. Cependant, il faut savoir que si la puissance d'un homme paraît infime lorsqu'on le prend dans son foyer ou dans son travail, lorsqu'il rencontre d'autres hommes qui pensent la même chose, la puissance devient beaucoup plus grande. Et lorsque la même pensée se trouve partagée au niveau d'une nation ou au niveau d'un continent, il n'est pas difficile de comprendre qu'un monde entier peut être influencé donc par une pensée. Et l'on ne comprend pas pourquoi existe encore l'agressivité ou des tabous sur l'argent, et toute la ribambelle de petits problèmes que vous connaissez dans les relations humaines, ou les relations économiques ou politiques. Ce n'est pas parce que vous pensez ou pratiquez cette chose, la chose qui est mise en cause. Ce n'est pas parce que vous le pensez que le préjudice est porté sur le monde entier. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que si vous pensez une chose, étant donné que vous n'êtes pas si unique que ça dans l'évolution, et que des millions de personnes correspondent à votre type d'évolution, à votre type de vibration, à votre type mental, des millions d'autres personnes vont penser la même chose que vous. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, pour avoir émis une petite pensée dans votre jardin, il va se trouver que cette pensée sera partagée par des millions d'individus qui sont peut-être de l'autre côté de la Terre et qui s'appellent les Chinois ou les Japonais ou les Indiens. Et comme une graine qui a énormément poussé, voilà que d'un seul coup, un arbre est né et qu'il étend toute son ombre partout. Voilà pourquoi il semble qu'il y ait des épidémies de violence, des épidémies de révolte et de révolution, ou de chute économique, ou de bouleversements sociaux. Ces choses arrivent non pas parce que tous les hommes ont décidé en même temps de faire la chose. Des hommes qui vivent de façon différente, avec des mœurs différentes, avec des religions différentes. Les hommes ne peuvent pas au même moment penser la même chose. Cependant, si, quelque part, un groupe a vécu une pensée et a extériorisé cette pensée, et de façon suffisamment puissante pour qu'elle ait un rayonnement et qu'elle soit transportée exactement comme un nuage radioactif, ce nuage va aller contaminer les autres penseurs qui sont potentiellement capables de la même pensée et du même geste. C'est pourquoi tout semble se passer par épidémie. Lorsqu'il y a un changement quelque part, cela ne concerne pas que le groupe qui a connu ce changement. En peu de temps, ce changement se répercute partout autour de la Terre, partout où il y a des hommes qui potentiellement sont capables de penser la même chose et de faire la même chose. Ce qui veut dire qu'à la base, les structures seront donc les mêmes. Lorsque vous voulez comprendre de manière globale la vie de la Terre et l'activité qui a lieu sur la Terre en ce moment, à propos des changements, des bouleversements, des retournements aussi de la nature et des accélérations du mal, comme des accélérations de la spiritualité, vous devez avoir à l'esprit ce phénomène d'épidémie. Sinon, vous ne pourrez pas avoir un entendement du mouvement global qui s'effectue sur la Terre. Et par là même, vous n'arriverez pas à vous situer et à savoir de quelle manière travailler, même si vous êtes seul, dans votre jardin ou dans votre ville. Si vous voulez travailler activement, non seulement pour le nouveau monde, mais surtout pour le nouvel homme, et j'insiste là-dessus, parce que l'on parle beaucoup de nouvelles structures, on parle beaucoup d'un nouvel état d'esprit, on parle beaucoup de nouvelles méthodes, que ce soit en médecine ou en quoi que ce soit d'autre. Et en fait, on ne pense pas à l'homme lui-même. Pourtant, c'est l'homme qui est le centre et le but de ce changement. Si l'on ne change pas les hommes, rien de ce que l'on prévoit comme nouvelle structure aura lieu. Donc il faut attaquer l'homme avant d'attaquer le monde. Et il se passe au contraire complètement l'inverse au niveau des mouvements et des renouvellements politiques et sociaux. Les groupements attaquent la structure. Ce qui ne veut pas dire que attaquer la structure soit inutile. C'est un mouvement complémentaire, donc un mouvement nécessaire. Cependant, il ne faut pas attendre le nouveau monde par ce bouleversement des structures, parce que la structure ne fera jamais entièrement un nouvel homme. Par contre, pour ceux qui veulent faire un travail authentique et un travail de performance, alors je vous le dis, quittez, si cela se trouve, les mouvements politiques, les mouvements de renouvellement financier ou quoi que ce soit d'autre. Et essayez de travailler, même si c'est de façon silencieuse, sur le centre que représente l'homme. Et vous verrez qu'après, tous les projets que vous aviez en tête pour édifier, par exemple, une nouvelle finance ou une nouvelle circulation des capitaux, vous verrez qu'après, tout ceci va être accepté et va pouvoir s'effectuer de façon simple, sans qu'il n'y ait aucun obstacle. Et au contraire, les gens vont être en demande. Lorsque l'on veut travailler pour la hiérarchie, il faut travailler comme la hiérarchie travaille. On ne peut pas imaginer un plan de travail et puis se dire que les maîtres feront avec ça, ou que cela est sans doute le travail des maîtres. Pour savoir comment travailler, il faut d'abord s'intéresser au type de travail que rayonnent les maîtres. Comment travaillent les maîtres? Que ce soit depuis l'invisible ou sur un plan physique. Ils agissent de façon très simple. Ils ne se demandent pas où est le problème. Ils ne se disent pas, eh bien là, il va falloir changer cette loi. Là, il va falloir changer cette structure. Tiens, là, je vais aider tel scientifique parce qu'il faut qu'il trouve ceci et cela. La démarche mentale ne s'effectue pas de la sorte sur des points précis. Il regarde simplement le grand homme total que représente l'humanité. Et à la surface de ce grand homme, le maître regarde où en sont les feux d'évolution. Selon l'activité de ces feux, l'éclat de ces feux et le nombre des chakras allumés, il sait très bien que sur la Terre et dans la société, dans la vie économique ou quoi que ce soit d'autre, il y aura tel et tel problème ou telle et telle qualité et capacité. Il n'a pas besoin de venir voir sur la croûte terrestre, il sait très bien, en regardant l'activité des feux, la dimension, la couleur, le son et les formes géométriques qui en sortent, il sait très bien quels seront les problèmes et quelle est la situation mondiale. Et c'est un diagnostic qui est beaucoup plus précis que s'il venait hanter, par exemple, les cabinets politiques pour voir ce qui s'y passe. Ou s'il allait dans les centres scientifiques pour voir où en sont les scientifiques. Ce que sa vue éthérique lui permet de voir crée un diagnostic beaucoup plus précis. Parce que les couleurs sont beaucoup plus porteuses de vérité que l'est la simple évidence humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que les humains vivent sans jamais les manifester et qui demeurent sur le plan des énergies et des vibrations. Vous ne vous en apercevez pas directement, mais cela est aussi important à votre vie que tout le reste, que ce que vous faites donc de façon manifestée. Et le maître, ayant la vision éthérique, pouvant faire ce diagnostic éthérique, peut lui donc avoir la vision sur vos actions physiques et sur vos actions occultes, celles qui restent même dans votre inconscient. Ayant fait donc le diagnostic, il se dit, eh bien, dans tel chakra, il n'y a que la moitié des pétales qui sont ouverts. Il va falloir favoriser l'ouverture des trois prochains pétales. Et automatiquement, il met en route une focalisation de pensée qui permet la descente d'une énergie qui vient du soleil. Un maître ne sert d'intermédiaire qu'aux énergies solaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaille pas avec d'autres énergies. Mais le maître ne canalise pas les énergies venant des autres planètes. Les planètes chutent leur énergie sur la Terre. Cela crée en même temps un composé dans lequel les hommes se débattent et essaient d'évoluer. Je parle simplement de l'énergie que retransmet le maître. Aucun maître ne retransmet, par exemple, l'énergie de Saturne ou l'énergie de Jupiter. Par contre, de façon extérieure et dédoublée, il va pouvoir favoriser la précipitation de l'énergie de Saturne ou de Jupiter. Mais comme Saturne et Jupiter sont des planètes d'évolution, le maître qui a atteint le poste où il est capable d'influencer et de déterminer l'humanité ne peut donc pas se permettre d'incorporer une énergie qui est toujours en cours d'évolution et qui est donc par trop typée. Si elle est typée, elle n'est pas totale, elle n'a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors il ne peut l'incorporer. Par contre, il peut utiliser la planète, ouvrir plus ou moins fort les écluses de son aura pour se précipiter plus ou moins fort sur la terre et sur les hommes. Le maître, donc, celui qui a atteint le pouvoir et le niveau de déterminer l'humanité, ne va être le réceptacle que des énergies solaires. Et c'est pourquoi lorsque vous regardez le faciès, le visage des grands maîtres dont on vous a révélé le nom dans quelques écoles, vous remarquerez qu'ils ont tous à peu près le même visage, qu'ils sont tous composés à peu près des mêmes traits, si bien qu'on se demande s'il n'y a pas là une erreur et une folie de celui qui a reçu les dessins. Et pourtant, c'est la vérité. Lorsqu'un individu est suffisamment total pour recevoir l'énergie une du soleil spirituel central, il va par là même être modelé d'après l'énergie solaire qu'il reçoit. Lorsque vous avez en face de vous un être solaire, il ressemblera à tous les autres êtres solaires. C'est évident. Parce que l'énergie, en se manifestant, crée un moule. Et il n'y a pas 36 moules pour la même énergie. Il peut y avoir quelques petites différences, quelques petites particularités, mais il ne peut pas y avoir de dissemblance. C'est impossible. Alors que la dissemblance existe quand un individu est adombré par des énergies venant d'autres planètes. Car les planètes sont justement les touches, imaginez un clavier, les planètes sont donc les touches de différenciation de l'énergie une qui provient du Soleil. C'est pourquoi les planètes sont tout autant importantes et sont magistrales dans l'acte d'accomplissement et de purification de l'humanité, mais même si elles sont importantes, le maître n'incorpore pas l'énergie d'une planète, aussi évoluée soit la planète. Donc, pour continuer au niveau de ces transferts d'énergie par rapport à l'homme, je dirais que celui qui veut travailler dans un sens d'accomplissement profond, comme je viens de le dire, il ne faut pas qu'il se soucie avec quelle énergie ou avec quelle planète il va travailler pour pouvoir méditer dans l'axe de façon à renforcer sa pensée semence et à participer à l'accomplissement du nouveau monde. Il faut tout simplement vous brancher sur le soleil directement, même si en fin de compte et par mouvement d'alchimie, le groupe sera davantage typé par Vénus ou par Jupiter ou par Saturne ou par la Lune pour ceux qui n'ont encore rien compris et qui demeurent un peu dans les illusions. Ne choisissez pas vous-même votre énergie. Laissez l'énergie vous choisir. De cette façon-là, la communion sera beaucoup plus grande et beaucoup plus fertile en action, en rayonnement, en fertilité. Tous ceux qui veulent créer un alignement avec la hiérarchie ou avec un maître ou avec leur propre âme doivent penser à cette énergie solaire une et une seule. Ensuite, ils doivent accepter toutes les différenciations de l'énergie, c'est certain. Mais pour être sûr de véritablement être en communion avec l'énergie qui leur convient, et ceci à cause des incarnations passées, à cause des expériences spirituelles passées, pour être donc sûr d'être dans la bonne énergie, il ne faut rien décider. Parce que vous n'avez pas le matériel et la connaissance suffisante pour pouvoir choisir vous-même votre alignement vibratoire. Vous pouvez vous connaître un petit peu, c'est certain. Vous voyez tout simplement ce qui vous plaît, les réactions que vous avez à certaines énergies, et vous pouvez facilement vous connaître dans une certaine mesure. Mais vous ne pouvez vous connaître que de par le conditionnement de cette vie présente. Or, ce que vous êtes véritablement, ce n'est pas uniquement la vibration de cette vie-ci présente. C'est aussi toute l'accumulation des vies passées. Et ceci, vous l'ignorez. Vous n'avez pas connaissance de vos incarnations. Vous ne savez pas dans quelle race vous avez pu passer, dans quel temple vous avez déjà étudié, ou quel karma est venu alourdir votre vie. Vous ignorez complètement ces choses. Et pourtant, c'est grâce à ces choses que l'on peut sciemment connaître l'énergie avec laquelle on va travailler. Donc, si vous ne pouvez pas connaître ces choses parce que le matériel vous fait défaut, vous devez faire la chose inverse et au lieu d'exercer le choix, exercer une ouverture. Quand je dis exercer une ouverture, je ne veux pas dire que vous devez recevoir tout ce qui va se présenter. Car dans l'acte de l'ouverture, il y a encore un certain danger. C'est-à-dire que si un individu s'ouvre dans un état de complet abandon, mais que son égrégore de protection, que son entrée dans un temple ou dans un égrégore invisible n'est pas encore parfaitement acquis, il risque de s'ouvrir sur des zones de la vie invisible qui, elles, sont très agressives et très fournies en illusions. Ce qui fait que, au lieu de fabriquer son destin, l'homme va voir son destin comme étant défait et amenuisé. Pour éviter cet inconvénient, il vous faut vous ouvrir, mais tout en gardant une parfaite concentration. C'est quelque chose qui paraît contradictoire, et pourtant cela suffit. Il n'est pas besoin de se couvrir de formules de cabale, de mantras ou de couleurs qui ont une certaine résonance magique. La protection se fait automatiquement sitôt que vous gardez votre substance mentale concentrée. Quand un individu concentre sa substance mentale, il n'est pas capable de penser. Il est concentré. Et le fait de garder cette concentration crée dans l'être occulte de l'individu une sorte de garde, le gardien du seuil. Et dès que ce gardien est érigé, l'individu peut se lancer dans n'importe quelle méditation, dans n'importe quel travail alchimique, il ne risque rien. Alors que pour celui qui va s'ouvrir, en croyant que l'ouverture doit se faire à tous les niveaux et qu'il abandonne complètement ses résistances, pour celui-là, il y a un très grand danger, un danger que des énergies adverses l'investissent. Même pour celui qui connaît une certaine évolution, le danger existe. Ce qui ne veut pas dire que demain vous devez avoir peur de toutes les ouvertures. Vous ne risquez rien à partir du moment où vous créez votre ouverture avec à la base la concentration. Un peu comme si vous voudriez créer un grand triangle ouvert, mais qui repose la pointe en bas sur une boule très dense de concentration. Concentration de quoi ? Concentration de votre être pensant, votre être individuel. En agglomérant comme cela tous vos atomes d'individualité, de conscience, d'autoconscience et de lucidité, vous représentez une base solide pour le triangle qui va se reposer sur vous. S'il n'y a pas cette base solide, automatiquement, dès que le triangle sera créé, il va petit à petit, comme un bateau coule, glisser dans les règnes inférieurs et notamment dans l'astral. Si vous aviez les yeux pour voir ce que je suis en train de vous décrire, vous n'auriez aucun mal à me croire. Pour qu'un homme puisse monter vers le haut, il faut qu'il crée un fond, et un fond solide, un fond en brique, en granit, et sur ce fond qu'il prenne l'élan pour monter ou qu'il y repose son système d'ouverture. S'il n'y a pas ce fond solide, ce cube de granit ou ce cercle très concentré, le triangle va automatiquement redescendre dans les zones de l'inconscience, ce qui va automatiquement mettre l'individu en résonance avec l'astral et 9 fois sur 10 avec le bas astral. C'est pourquoi toutes les méditations qui sont faites et qui proposent des ouvertures, qui proposent des relaxations profondes pour contacter ceci ou contacter cela, sont en fait, du point de vue occulte, des dangers très puissants et des techniques contraires à toute évolution. C'est au contraire une technique qui risque de faire involuer les gens, les faire retourner ou retomber dans l'astral, dont ils ont eu tant de mal à se départager. Donc vous devez faire très attention, non pas aux techniques qui vous sont proposées. Les techniques sont bonnes en elles-mêmes, mais vous devez faire attention à votre façon d'effectuer ces techniques. Et si vous remarquez que le guide ne vous fait pas partir sur une base de granit par la concentration, ce qui automatiquement rassemble toute votre force et votre individualité, s'il ne vous fait pas partir depuis ce point de force, vous devez le créer vous-même. Si vous vous en sentez le courage, vous devez lui en parler, mais ce n'est pas une obligation, laissez-le apprendre sa leçon. Il doit lui aussi comprendre quel est le fonctionnement occulte réel de l'énergie et de l'évolution. Si vous ne voulez donc rien dire, faites-le vous-même en secret, mais ne vous ouvrez pas comme cela, de façon abandonnée, sans qu'il y ait cette aimantation en vous-même de tous vos atomes de puissance et d'individualité. Il faut vous ouvrir sur le haut, il ne faut pas glisser dans le bas. C'est pourquoi, lorsque vous voulez rayonner de façon active sur la Terre, que ce soit par l'intermédiaire de groupes de prière, de groupes de visualisation ou de méditation, vous devez absolument reposer le groupe entier sur une cellule de concentration. Même si ce que vous avez dit à propos de la concentration n'a pas été accepté par les autres, vous devez vous-même, occultement et invisiblement, créer dans le centre du groupe un point qui est un point de granit. C'est très facile à faire. Puisque les autres sont en plein abandon, vous-même, vous pouvez manipuler leur énergie et leur substance mentale. Rien ne vous y en empêche puisqu'ils sont en complet abandon. Rien de plus facile. D'où le danger, justement, que des entités qui ne sont pas si supérieures que cela, si bien intentionnées que cela, puissent venir et prendre à leur profit malsain les énergies du groupe dont l'intention était de rayonner le nouveau monde. S'il n'y a pas cette base de granit, un groupe peut se trouver en quelque sorte récupéré par les énergies adverses. Pour éviter cela, donc, partout où vous passez, créez un lien comme vous essayeriez de fabriquer un fil invisible et lumineux partant depuis le centre de l'être de chaque individu en présence. Tirez comme cela un fil depuis chaque individu. Prenez tous ces fils à leur extrémité et faites-en une belle pelote de laine. Et dans cette pelote, projetez toute votre propre concentration et toute votre propre force de concentration, donc de construction d'un centre de granit. Et une fois que vous sentez la condensation suffisamment créée, alors vous pouvez laisser le groupe aller à sa méditation et vous-même, vous pouvez y participer. Et vous verrez que non seulement le groupe ne risque rien, mais qu'en plus il va se développer, qu'il va énormément grandir, non seulement en influence, mais aussi en rayonnement occulte, si vous avez l'œil pour remarquer ce genre de rayonnement. Quand vous voyez des groupes qui ne fonctionnent pas ou des choses qui restent petites, c'est parce que la base est absente. Et cette base, c'est la force. L'homme qui prie le nouveau monde ou qui veut le nouveau monde se contente d'arriver avec un cœur dilaté en visionnant les maîtres, les anges et les marguerites du jardin. Et se dit, en ouvrant mon cœur, j'arriverai à créer le nouveau monde parce que j'ouvrirai le cœur des autres et en ouvrant tous notre cœur, nous changerons le monde. L'idée n'est pas mauvaise et je ne discute pas de l'amour que vous avez lorsque vous émettez cet idéal. Je discute simplement d'un principe de création. Si vous avez l'idéal, cet idéal-là, et Dieu sait qu'il est beau, ne le gâchez pas, ne le gaspillez pas, en ne sachant pas comment le créer concrètement sur la terre. Regardez ce qui est à la base de l'univers. La base de l'univers est la force. Sans la force, il n'y a pas d'homme. Sans la force, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Qu'est-ce donc que la force? Car c'est cela qu'il faut comprendre si vous voulez comprendre mon discours et comprendre comment être utile dans la vie. La force n'est pas le simple fait d'affirmer, d'appuyer quelque chose ou d'investir toute sa puissance morale ou sa puissance affective ou sa puissance nerveuse dans un projet. La force est tout le contraire. La force est un grand calme, tellement calme qu'il fait presque froid au cœur. Car la véritable force ne se déclenche que dans ce calme. Ce qui fait que tous les individus, tous ces disciples qui se jettent aux pieds du maître, que ce soit un maître invisible ou visible, tous ces disciples qui courent le cœur dilaté et flamboyant partout, aux pieds des gourous ou aux pieds des groupes qui font quelque chose pour les aider à y participer, tous ces disciples sont absolument inutilisables. Parce qu'ils ne représentent aucun pilier fixe pour un acte de création. Nous voulons bien que vous ayez des idées. C'est très beau d'avoir des idées. C'est très beau d'avoir des idées à propos du nouveau monde, à propos du Messie, à propos du nouveau Bouddha ou de je ne sais quoi. Mais ça ne suffit pas d'avoir des idées. Il faut aussi créer l'idée. Et la plupart des gens, dans leur ouverture naïve et sans connaissance, ne sont pas capables de créer, de matérialiser leur idée. Le pouvoir créateur réclame un autre comportement que celui tout simple de la dilatation et du flamboiement. C'est très beau de flamber. Et je veux que vous soyez dans un feu d'amour, un feu d'espoir, un feu de vision de l'idéal. Mais je vous en prie, si vraiment vous aimez cet idéal, si vraiment vous espérez cet idéal, ne restez pas dans la vision. Venez sur la terre et faites avec les lois de la création. Et d'autant que vous aimez cet idéal, soyez rude, concret, ferme, actif, créateur. Sinon, votre amour n'est pas véritablement de l'amour. C'est tout simplement un rêve qui passe. Et beaucoup d'hommes ne font que aimer leur rêve, même s'il s'agit de Dieu, ou d'un maître, ou du nouveau monde. Beaucoup trop de gens à travers le monde ne font qu'en fait qu'aimer leur rêve. Et il n'y a jamais de point de création, ni de descente d'énergie suffisante pour cristalliser cette idée en monument, en création. Il faut donc, pour comprendre cet acte de création et pouvoir recevoir l'énergie créatrice, il faut donc s'analyser soi-même pour savoir si vraiment, en toute vérité, il y a quelque chose de nouveau sur la Terre. Car énormément de gens entendent parler